Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une justice à deux vitesses. La chroniqueuse judiciaire Dominique Simoneau poursuit son travail de documentation et d'observation des comparutions immédiates dans Coup de barre qui paraît au seuil. Elle nous rejoindra pour nous en parler à partir de 12h55. Mais d'abord, avec ses images, il a chroniqué 40 ans de conflits et de luttes de l'Irlande au Liban, mais aussi raconté de l'intérieur les bandes et la jeunesse rebelle, des punks anglais aux blousons noirs français. Passé par Libération, Paris Match, Newsweek, Indépendant aujourd'hui, comment regarde-t-il le monde ? À l'occasion de Paris Photo, grande messe de la photographie qui ouvre ses portes ce jeudi jusqu'à lundi, où il exposera en 5 séries, représentées par la galerie Sit Down, le photographe Yann Morvan est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Une photo, elle vous saute à la gueule comme un puma, quoi. Elle vous prend la gorge, une photo. Et elle vous empêche de réfléchir sur le moment, si elle est trop puissante.
Voilà, votre confrère Patrick Chauvel, récemment invité de Par les temps qui courent sur France Culture. Quoi de commun entre la silhouette de Bobby Sand à Belfast, un blouson noir, une prostituée de Bangkok, le premier champ de bataille et la ligne verte de Beyrouth? Un œil, celui du photographe Yann Morvan, notre invité aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour tous.
Merci d'être avec nous. À 17 ans, je tombe par hasard sur un numéro de la revue Zoom qui traite des photographies de guerre au Vietnam. Larry Burroughs, Philip Jones Griffiths, Henri Huet. À cette époque, la photo pour moi se résume à David Hamilton et ses nymphettes, Francisco Hidalgo et ses jeux de filtre, ou Henri Cartier-Bresson et ses cadrages au cordeau. Or là, c'est un véritable choc, écrivez-vous Yann Morvan. La photographie peut donc représenter autre chose. Je serai photographe de guerre. Dans Liban, un très gros et bel ouvrage de photos, beau par sa dimension, parce qu'il raconte aussi. Ouvrage paru l'an passé aux éditions Photosynthèse, vos chroniques de guerre du Liban de 82 à 85, rassemblées donc dans ce livre aussi épais qu'intense, où vous racontez vos débuts, la naissance d'une vocation. Quelle est cette autre chose que vous avez cherché à représenter depuis 40 ans, Yann Morvan?
J'ai toujours pensé que le journalisme, quel qu'il soit, que ce soit écrit ou photographique, ça commençait en bas de chez soi. Et donc j'ai commencé en bas de chez moi à photographier, on va dire, les blousons noirs dans les années 70. J'ai commencé à faire des photos en 74. Et le bas de chez moi, il s'est étendu un peu après à la France, à l'Europe, puis à la planète. Mais j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de... je pensais ce matin, bon, puisque j'allais venir, à dire que moi, je suis un photographe des petites gens. Hein, et il y a beaucoup de mes confrères qui photographient les stars, les people, et moi j'ai toujours fait le contraire, c'est-à-dire j'ai toujours fait l'antithèse de ce qu'il fallait faire, disons, pour réussir dans cette carrière. Dans les années 70, les photographes, il n'y avait pas cette vogue qu'on a aujourd'hui de la photo artiste. C'était, il y avait photographes de mode, des photographes de publicité, il y avait, les Américains avaient commencé avec, bon, moi je me suis beaucoup inspiré de la photographie américaine, hein, ce qu'on appelle les photographes embedded, mais en France, disons que c'était, il y avait cette dimension de photographie moniste que tout le monde sait, c'est-à-dire Doisneau, Cartier-Bresson, Lartigue, mais on faisait pas des reportages de fond. Hein, c'était de la photo de presse, c'est-à-dire on illustrait des articles avec un journaliste. Et moi j'ai toujours été, bon, j'étais, quand j'étais à la fac, je voulais faire cinéma, et j'ai toujours voulu m'intégrer par empathie et par curiosité surtout aux groupes sociaux que je ne fréquentais pas, en me disant un peu comme un anthropologue. Et donc c'est ça qui m'a amené à travailler déjà près de chez moi, parce que, et ensuite à élargir un peu mon champ d'activité.
Vous êtes un photographe indépendant?
Oui, tout à fait, oui.
Ça veut dire indépendant,
quoi, être indépendant, parce que, bah, écoutez,
est-ce que cette indépendance, elle a un prix?
Oui, mais quel bonheur et quel plaisir d'être indépendant. J'ai été salarié 2 fois dans ma vie, et à chaque fois, j'ai pas pu. La première fois, j'ai fait, je sais pas, un collapse. Le SAMU est venu me chercher parce que je supportais plus le salariat. C'est très très étrange, et donc j'avais rien. Mais bon, j'ai démissionné. Et la deuxième fois où j'avais le plus gros salaire d'une agence de presse, je me suis arrêté de travailler. Donc j'étais voir le patron de l'époque, je lui ai dit, écoutez, il faut que je m'en aille parce que à cause de vous, maintenant vous me donnez 25 000 francs par mois, je peux plus travailler.
C'est pour bien travailler, il faut être un peu dans l'inconfort.
C'est un métier où si vous êtes dans le confort, on fait pas ce que je fais moi, c'est-à-dire je suis obligé d'être toujours un peu, je dirais, sur le fil du rasoir. Mmh. Et disons, c'est une façon d'être qui est maintenant bon, ma vie, quoi. Mm. Borderline.
Borderline. Mm. Partir, revenir. Le journaliste Jean Hatzfeld, reconnu notamment pour ses reportages au Rwanda, auteur de la ligne de flottaison il y a quelques années, racontait le retour et les départs des reporters de guerre.
C'est formidable quand on est journaliste de pouvoir, et qu'on aime raconter des histoires, raconter une histoire très forte. Et c'est vrai que c'est au cours des guerres qu'on rencontre souvent les histoires les plus fortes. Parce que les gens, la mentalité et les personnalités des gens sont transformées par la guerre. Elles apparaissent beaucoup plus à nu, beaucoup plus sincères, beaucoup plus simples. Les relations entre les gens sont beaucoup, beaucoup plus faciles à vivre d'une certaine façon. Et donc c'est plus agréable et plus facile pour un journaliste de raconter et de refaire ses rencontres. Je suis persuadé que la plupart des vrais correspondants de guerre, des grands journalistes de guerre, sont des gens qui quittent quelque chose avant d'aller vers quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui quittent. C'est un peu comme les grands voyageurs, d'ailleurs. Les grands voyageurs, souvent, sont des gens qui ne vont pas quelque part, mais qui quittent quelque part.
Qu'est-ce que vous quittez, vous, Yann Morvan, et pour aller à la rencontre de quoi ?
Ouais, le problème existentiel, oui. Non, pas du tout. Je me considère pas comme un photographe de guerre. J'ai fait ça très longtemps. J'étais il y a encore 2 ans sur le front ukrainien avec les Russes, d'ailleurs. J'ai un ami à moi qui a été blessé par une mine là il y a 3 semaines, un Français, un Breton. Et sur le front, on parlait de philosophie. On évoquait la différence entre Hegel et Emmanuel Kant. C'est-à-dire que c'est des endroits. La guerre, c'est quelque chose un peu comme un no man's land de la vie. C'est quelque chose où on est, on vit intensément et on vit plus du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai passé quand on passe du temps dans les tranchées, à attendre d'être déchiqueté par, disons, après le monde réel, disons notre monde à nous, il a pas du tout la même. Vous voyez, on parle de Paris Photo et on me dit oh, y a un enjeu formidable, t'as un solo show à Paris Photo. Je lui dis oui, mais certes, je ferai le maximum comme toujours, je ferai le job. Mais quand on a vécu certaines choses, ça n'a plus, disons, on est un peu distancié par rapport à peut-être des peurs et des angoisses que les gens qui ont vécu un peu dans le confort peuvent avoir.
Mais c'est quoi la différence entre un reporter de guerre et vous ?
Je sais pas. Moi, je sais pas ce que c'est reporter de guerre.
C'est peut-être un photographe.
C'est trivial. D'abord, la guerre, c'est quelque chose de très trivial. Mmh. Je veux dire, pour l'avoir fréquenté, c'est laid. C'est quelque chose qui est le pire. Je veux dire, la peur, la souffrance, l'angoisse permanente, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, j'ai fait la guerre par. On m'a proposé. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en agence, on m'a dit est-ce que tu veux faire la guerre ? J'ai dit écoutez, j'en sais rien. Et puis, vous avez reçu Reza il n'y a pas longtemps.
Hein, bon,
et il était au Liban et il a été en juin 82 lors de l'invasion israélienne. Bon, j'avais fait Iran-Irak avant, mais c'était un peu un voyage organisé. Et on me dit, écoute, Reza a respiré, il veut rentrer, là, ça a été dur, etc. Est-ce que tu veux y aller ? Et là, on m'a dit, écoute, c'est dangereux. On était en juin 82, on m'a dit, c'est dangereux, tu y vas ou tu y vas pas ? Et là, vous savez, c'est le truc du mal, hein, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je suis pas un homme ? Est-ce que j'y vais ? Etc. Là, il y a le patron de l'agence qui vous dit, de toute façon, si tu refuses, t'as pas ta place ici, donc t'as pas le choix. Donc j'y étais. Je me suis habitué. Voilà. C'est tout. Mais sinon, j'avais pas du tout l'intention. Alors, le témoignage, par exemple, et vous savez, il y a cette histoire, il y a ce film là qui est passé, la Camille, avec les gens qui font la guerre et tout. La chose qui, je crois, le reporter de guerre, et vous avez eu Chauvel, là, vous en parliez tout à l'heure, on l'a entendu, avec qui j'ai travaillé, que je connais bien. Et il faut pas aller pour changer le monde si vous faites ce métier. Vous savez, on est rien, tout petit grain de sable. Il faut y aller pour faire son boulot. C'est tout. Et les gens qui veulent y aller pour changer le monde, ça ne peut pas marcher.
Reza était effectivement notre invité, ainsi que son frère Manoucher Degheti. Mmh. Ils étaient tous les deux autour de cette grande table. Et Manoucher, qui a vécu, couvert aussi cette guerre Iran-Irak, racontait que le premier obstacle au travail du journaliste dans un conflit, c'est les autorités. Ce n'est pas forcément même la violence, ce n'est pas forcément d'appuyer sur le bouton au bon moment. C'est la censure qui est appliquée aussi pour vous. Photographe sur le terrain.
Oui, mais vous savez, regardez ce qui se passe en Afrique actuellement, c'est effrayant. Il n'y a pas. J'ai essayé d'aller au Congo, bon, mais les risques à prendre. Le problème, c'est qu'on arrive toujours à détourner les problèmes de censure, etc. Mais quel est l'enjeu aussi ? Ce monde est à feu et à sang, il a toujours été.
Ça fait 40 ans que vous vous posez cette question, quel est l'enjeu ? Pourquoi faire ça? Pourquoi partir? Pourquoi raconter?
Je suis pas mystique, hein, mais on a tous une mission à faire. Moi, je sais que je dois le faire. Par exemple, là, je sors des livres qui datent, bon, je fais des nouveautés, on va dire, et des choses anciennes. Je dois les faire, ne serait-ce que par respect par rapport aux gens que j'ai photographiés. Donc, ma mission, ça serait les gens qui m'ont accordé leur confiance, que ce soit les Irlandais ou les filles ou les Anglais, les modes, enfin, les blousons noirs, tous ces gens-là qui m'ont accordé leur confiance, qui se sont laissés photographier. Ils laissent une trace dans l'histoire et ils laissent des racines pour comprendre. Je vais pas refaire, je crois que c'est Diderot qui disait que le présent se nourrit du passé et explique le futur. Mais le problème de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on a plus de passé, on a de moins en moins de passé. Et alors, quand on me parle du Brexit, j'ai Bobby Sands, le bouquin sur l'Irlande du Nord, ou les modes, l'arrivée de Thatcher, ça explique le Brexit. Et tout est comme ça, si vous voulez. Donc, moins on a de références, moins on a de connaissances du passé, moins on peut aller vers le futur, moins on comprend le présent. Donc moi, mon boulot, c'est d'expliquer le présent.
La guerre, c'est une expérience humaine pour ceux qui la couvrent, les photographes, les journalistes, mais d'abord pour ceux qui la vivent et qui la subissent. C'est aussi ça que vous montrez à travers vos photos, Yann Morvan. Vous représentez aujourd'hui notamment votre série La Ligne Verte. Ligne Verte que vous avez parcourue au Liban pendant 45 jours, côté ouest. Il faut rappeler que côté ouest, il y avait une population à majorité musulmane et côté est, en majorité des Libanais chrétiens. Vous avez suivi cette ligne de démarcation, cette ligne de front, cette ligne de désolation de la montagne jusqu'au port. Certains étaient trop pauvres, et vous le montrez, vous le racontez, pour réussir à partir, à fuir cette guerre-là. Et puis il y a ceux qui ont réussi, là aussi à quel prix, à s'enfuir. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec ces photos, vous rendez à la fois justice aux premiers, ces paysans que vous avez aussi photographiés, et que vous rendez la mémoire aux seconds, que vos images vont constituer un peu cette part manquante de cette histoire, et la leur aussi.
Oui, parce que la photo de guerre, le problème, c'est que j'ai passé longtemps au Liban, et quand je suis retourné en 85, j'avais publié dans les grands journaux, et je m'étais dit, mais à quoi ça sert de tout ça? Vous savez, quand vous démarrez, vous dites, peut-être plein de la jeunesse, plein d'idées, je vais faire des images qui vont changer le cours des choses, etc. Et je suis resté tellement longtemps dans ce pays en guerre, et je voyais mes confrères passer une semaine, 15 jours, etc. Souvent pour des motifs peu avouables d'ailleurs, parce que c'était très financièrement intéressant. Et je me suis dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter, je sais aller en première ligne, je sais faire des photos de gens qui tirent, je sais comment on va photographier les blessés, les morts, je sais les champs de mines, je sais tout ça. Mais quel est l'intérêt de toute manière? Et une fois, j'étais à Paris, il y avait un journaliste du Monde qui m'avait dit, mais Yann Morvan, pourquoi tu fais ça? Tu gagnes tellement d'argent à faire ça. Et je lui dis, mais tu sais, quand tu es sur un champ de mines, tu penses pas à ta banque, à ton compte en banque. Et combien de mes confrères sont morts d'ailleurs, ont sauté sur des mines. Et il n'y a pas longtemps, il y a encore 2 ans, j'ai déjeuné avec un qui partait à Mossoul et qui est mort. Et je me suis dit, il faut faire autre chose. Il faut montrer les gens. Il faut montrer cela. C'est pas nous. Et j'avais commencé à faire ce travail avec une chambre photographique, un peu, disons, comme à la Nadar ou à la Auguste Sander. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Et de dire, je vais raconter l'histoire des gens. Je vais dire qui ils sont, parce que tous les jours ils sont pilonnés, tous les jours ils sont sous le feu, et que ces gens-là ne peuvent pas s'en aller. Ils n'ont pas les moyens, etc. C'était la communauté chiite, qui était vraiment les laissés pour compte sur la ligne verte. Et quand je suis rentré en France, écoutez, les gens m'ont dit, mais attends, Yann Morvan, tu es complètement fou, qu'est-ce qui t'arrive? Mais attends, t'es un grand photographe de guerre, maintenant tu vois, tu photographies des civils, ça n'a pas de sens. Et j'ai eu un coup de chance, il y avait le rédacteur en chef de l'agence où j'étais, qui a été à Hambourg, voir Géo a fait un numéro spécial. Et là, après, tout s'est enchaîné. Vous savez, des fois, il y a des concours de circonstances, mais quand on a la passion, l'envie, la volonté, les choses se font. C'est ça le vrai pitch aujourd'hui. C'est qu'on arrive à... L'humanité est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand on a suffisamment de volonté et de passion, on peut réussir les choses.
Alors, il y a eu sur cette ligne plusieurs photos prises en chambre, comme vous l'évoquiez, des portraits. Et puis aussi plusieurs, on retrouve dans ce livre, Liban, qui chronique vos 3 années, 82-85, passées au cœur de la guerre du Liban, dans ces années qui étaient extrêmement violentes, plusieurs vues aériennes, notamment de Beyrouth Ouest. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette photo?
Ah, ça, c'est pas une vue aérienne, ça, je suis...
Elle n'est pas aérienne, non, elles sont dans le livre, les autres. Alors, là, vous êtes sur les hauteurs et on voit...
Là, on est le 1er août 1982, donc ce sont un pilonnage par l'armée israélienne, ils étaient sur la montagne et sur des avisos, c'est du 120 mm avec des bombes au phosphore. Je suis au 13e étage de l'hôtel, d'un hôtel en construction qui s'appelle le Carlton. Je suis à côté de moi avec ma confrère Catherine Leroy, qui est décédée il y a une dizaine d'années, et Dick Hallstedt, l'envoyé de Time, et l'immeuble où on est pilonné. Et Catherine Leroy se met sur la corniche avec le poing levé et bon et injure la marine israélienne. L'envoyé américain Dick Hallstedt met un polarisant sur son truc à l'américaine, vous savez, pour faire une photo plus contrastée. Et moi, avec mon appareil, je shoote une série. À ce moment-là, l'immeuble, on est touché et on descend évidemment à pied, etc. Ça se passe comme ça, hein, je veux dire, ça, cette photo.
Vous avez parlé et raconté ce qui évoquait votre compte en banque en nous disant que sur une ligne de front, c'est pas à ça qu'on pense. Mais si vous êtes conscient de votre rôle, et on a le sentiment que vous êtes en permanence aussi à un moment travaillé quand même par un sentiment contraire, par la culpabilité du photographe de guerre. Ça, c'est ce que vous racontiez dans Reporter de guerre paru à La Martinière avec Aurélie Taupin. J'ai vécu 4 années dans l'enfer de la guerre, et là, c'est du Liban qu'il s'agit encore, à gagner de l'argent avec l'horreur. Je suis devenu cynique.
Oui, c'est passé ça. C'est-à-dire que je me rappelle parce que je suis rentré à Paris, j'avais une Chevrolet Camaro et j'avais peur de tout. Quand j'entendais les avions, j'avais l'impression, etc. Et effectivement, il y a ce sentiment qui est passé parce que justement, avec le temps, le problème de la presse, c'est que la presse est quelque chose de tout à fait anxiogène. C'est-à-dire, elle se nourrit que de mauvaises nouvelles. Et donc, vous devenez un peu, à un moment donné, je me rappelle, le vendeur de l'agence m'appelle à Beyrouth et il me dit, il nous faut des cadavres. Les journaux voulaient des cadavres. Et je dis, mais tu sais, moi, je suis pas pompe funèbre. J'ai jamais photographié de cadavres. Parce que je trouvais que c'était, je voulais les laisser en paix. Et si vous voulez, à un moment donné, les demandes qu'on vous fait, c'est dans l'ordre des choses, hein. C'est la manière de la journaliste. C'est comme ça que les journaux fonctionnent. Et puis que les gens réclament, hein. Aujourd'hui, bon, bah. Et donc vous devenez cynique parce qu'on va vous faire des demandes et c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment donné. Je me suis dit je dois cesser de faire ce métier et j'ai arrêté très vite en 87-88. Après j'ai couvert d'autres conflits. J'ai fait un livre pour Handicap International sur la guerre des mines. J'ai fait des choses comme ça mais qui étaient, disons, qui m'ont soigné. On va dire ça. Ça m'a soigné de cette folie du genre de la photo de presse. La photo de presse était une folie à l'époque. Elle rapportait beaucoup d'argent. Il y avait des gens sans foi ni loi qui travaillaient dans ce métier, qui ont disparu, hein, qui ont fait autre chose. Hein. Maintenant, bon, bah, peut-être qu'ils font de la télé. Hein.
Un cynisme contagieux dont vous avez été guéri. Ouais,
voilà. Et donc, j'étais guéri avec le temps.
Dans l'actualité musicale, on a choisi pour vous et pour les auditeurs de La Grande Table un groupe de rock queer libanais composé d'étudiants de l'université américaine de Beyrouth qui défraie la chronique au Liban par son iconographie, justement celle qu'elle a choisie, et certains mots aussi de ses chansons. C'est le groupe Mashrou Leila.
تذكري لما قلتي لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنات بلا كرافات وصبحيات شطيلي شعر وبعديني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني سكتيلي ايدي وعديني بيش ثورة كيف نسيتي كيف
Voilà, un chanteur et son groupe qui traitent directement dans ses textes, ses chansons, des problématiques LGBT, ce qui pose encore question, pose problème, surtout au Liban aujourd'hui, à l'origine de la polémique, l'annulation d'un concert du groupe. C'était cet été au Festival international de Byblos au Liban, à cause d'un post Facebook du leader du groupe, un photomontage où il avait remplacé la tête de la Vierge par Madonna. Ça n'a pas plu du tout aux autorités chrétiennes. Yann Morvan, bon, la question de la censure des images aujourd'hui encore partout dans le monde, on pourrait en parler, et notamment de vos images. Est-ce que certaines photographies ont été censurées ?
Il n'y a plus de censure politique aujourd'hui, il y a une censure commerciale. C'est-à-dire le problème des gens comme moi et de mes confrères, c'est que, on est dans une démarche entre guillemets d'auteur, hein, c'est-à-dire de raconter des histoires en images. Alors, bon, la télévision le fait, vous avez des émissions, je parle de grands reportages, mais le problème de la télévision, c'est que vous avez une image où vous êtes passif en permanence sur la télévision. Vous voyez les images qui défilent. La photographie, et c'est ça sa valeur, c'est que vous êtes actif. C'est-à-dire que dans une photographie, si elle est bien faite, disons, vous mettez des ingrédients, on va dire, qui racontent. Hein, c'est-à-dire, bon, bah, où les personnages, les couleurs ont un sens. Alors qu'à la télévision, c'est le mouvement qui donne du sens. Donc aujourd'hui, la censure est commerciale, où les journaux vont dire « Non, on peut pas passer ce sujet, parce que tu comprends, on a la pub BM, ou on a la pub Mercedes, ça va pas aller, etc. Et, » Mais les journaux s'autocensurent, c'est-à-dire que ces gens-là, ils adoreraient avoir des journaux formidables, et les journaux sont en train de mourir, parce que il y a tellement d'autocensure dans les journaux qui viennent pas des marques, hein, parce que les marques, elles sont assez elles sont à peine, hein, je veux dire, elles sont, mais les journalistes ont tellement peur aujourd'hui, souvent dans les magazines, de se dire oh là là, j'ai fait ça, il faut pas que je dise ça, etc. Qu'est-ce que le directeur commercial va penser? Moi j'ai vu des,
d'autant plus que c'est un mélange des genres, que Paris Match, pour lequel vous avez travaillé, a notamment longtemps pratiqué entre le commercial,
absolument,
entre le people, et entre la photo de guerre,
absolument.
Et ça n'a jamais dérangé, loin de là, ses lecteurs.
On se retrouve avec des publis reportages commerciaux, ce que moi je ne fais pas.
Un mot, Yann Morvan, de la contestation en cours au Liban, pays donc que vous connaissez bien, le réveil d'un pays dont vous avez montré les fractures, la guerre entre 82 et 85. C'est un système politique pour vous, cette partition confessionnelle du pays, née d'ailleurs dès 43, qui est décriée aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de dépasser toutes les fractures que la guerre civile avait confortées?
Vous savez, ça date de longtemps. Bon, un peu d'histoire entre deux points. C'est que quand même, la communauté maronite, disons le pouvoir, a été mis en place par les Français au 19e siècle, au moment de l'Empire ottoman. Et les Anglais s'étaient appuyés sur les Druzes. Donc, et on avait des sunnites, qui étaient donc les Ottomans, qui avaient le pouvoir. Donc le pouvoir s'est divisé en trois. Et à un moment donné, ils avaient besoin de travailleurs immigrés, les musulmans chiites. Le problème, c'est que ces gens-là, eh ben, ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Et donc, ils ont ils ont le pouvoir par la taille. Mais toutes ces structures qu'on retrouve encore dans le monde sont quand même issues du colonialisme. Moi, je remets pas, hein, je juge pas, hein, je dis que c'est comme ça que ça se passe. Donc on a quand même une aristocratie maronite, hein, qui n'a pas envie de perdre ses prérogatives, et sunnite aussi d'un autre côté. Et puis on a, on va dire entre guillemets, un lumpen prolétariat, qui est la communauté chiite, qui a été mis en avant par l'Iran, et c'est insoluble. C'est-à-dire, on est dans un problème géopolitique qui concerne à la fois les Occidentaux, le monde moyen-oriental, et qui ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai pas suivi là, les derniers événements, mais il se passe que c'est pas gérable du tout entre les trois communautés. Mmh. Et les gens qui sont modernes, on va dire post-modernes, comme on a eu aussi en France, on a les gilets jaunes, le monde est en ébullition, parce que le monde est en train de changer. Et le monde, de plus en plus, aura des fractures et des combats comme ça, de la jeunesse, des gens qui veulent changer le monde, un peu comme il y a eu au siècle des Lumières.
Alors, un autre de vos livres et une série exposée à Paris Photo rassemble vos clichés pris en Irlande du Nord au tournant des années 80 et toute l'iconographie autour de Bobby Sands, héros de la cause irlandaise, mort en prison après 66 jours de grève de la faim. C'était en mai 80. On pense au film Hunger, qui avait aussi raconté cette lutte du Britannique Steve Rodney McQueen. Comment Bobby Sands incarnait-il l'époque? Vous dites que c'est dans ces rues que vous avez été convaincu du bien fondé du témoignage photographique. Sans mémoire, sans émotion, sans réflexion, le monde serait plus pauvre, Yann Morvan?
Écoutez, le Bobby Sand, je suis très fier d'avoir sorti ce livre parce que c'est un livre impossible à faire. Quand vous allez voir un éditeur photo, les livres photo, les éditeurs ne gagnent pas d'argent. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment une passion. Et j'ai été voir cet éditeur, André Frère, et je lui dis, écoute, il faut faire Bobby Sands, parce qu'il va y avoir le Brexit. Et le problème du Brexit, c'est l'Irlande du Nord. Donc on va faire ça, parce qu'on va montrer que ce qui peut se passer réellement demain, si ça se passe mal. Et l'éditeur m'a dit, écoute, on fait le livre à trois conditions. Parce que c'est un livre qui va coûter cher, vous voyez, vous l'avez à côté, là, il est quand même bien fait. Et ça, je fais toujours des livres bien faits.
Avec ce même matériel utilisé pour la couverture que pour le livre.
C'est de la toile, c'est le papier fait un papier Garda à 170 grammes. Vous pourrez le garder 150 ans, il va pas jaunir. Et il me dit, voilà, trois conditions. On a l'aide du CNAP, le Centre National d'Art Plastique. Tu fais une expo à Perpignan, avec Jean-François Leroy. Et on a l'aide de la région. Alors, je lui dis, ça c'est en janvier. Et je lui dis, banco. Écoutez, j'ai eu l'aide du CNAP, j'ai fait un gros expo à Perpignan, et j'ai eu l'aide de la région, on a fait le livre. Et on a fait un crowdfunding qui a récupéré 10 000 euros. Donc le livre, on a pu le faire comme ça. Et c'est pour ça qu'il existe. Et c'est à chaque fois, c'est un challenge. Chacun des livres que je fais, c'est un challenge. Parce que chaque livre coûte. Moi, j'ai pas encore fini de payer le livre, parce que j'ai fait une exposition, et les cadres sont pas finis d'être payés. Mais quel bonheur d'avoir ça, quel bonheur d'avoir ce livre, de dire... Vous savez, il y a eu 9 grévistes de la faim, le 10e... Ils l'ont sorti avant de mourir. Il m'a envoyé une lettre en disant merci pour le livre sur Bobby Sands.
Et cette période que vous avez photographiée, qu'on retrouve dans ce livre, était pour vous, à travers ces images que vous avez captées, le gage aussi d'un monde libre et démocratique. Vous avez photographié aussi la chute du mur, vous y étiez ?
J'ai pas fait. J'étais à la chute du mur, mais j'ai fait une histoire sur une famille à l'époque qui était de l'Est et qui passait à l'Ouest. Disons, j'ai arrêté de faire de la presse, disons, de l'actualité, et j'ai essayé à chaque fois de raconter une histoire sur quelque chose. Voilà, ça c'est mon travail aujourd'hui.
C'est déjà la fin de cette grande table avec vous, Yann Morvan. Il y a beaucoup de vos séries qu'on n'aura pas eu le temps d'évoquer. Vous êtes réfractaire au groupe et notamment à la petite famille des correspondants de guerre. En revanche, le groupe, la bande, le gang des punks à crête aux skinheads de la série Anarchie au Royaume-Uni jusqu'au blouson noir, le cuir et la baston. Votre premier livre publié en 76, ça a été un de vos sujets de prédilection. Comprendre aussi ce qui fait corps dans le groupe. Autre sujet, les prostituées de Bangkok et les femmes qu'on retrouve dans un livre et une série BKK, livre publié aux éditions Nueve. Yann Morvan, j'ai dû en oublier encore beaucoup, mais merci d'avoir été avec vous. Ces 5 séries qui sont proposées en ce moment, qui vont être proposées à partir de demain à Paris Photo, qui s'ouvrira donc à Paris, qu'on peut retrouver dans les galeries et surtout en livre images pour ceux qui souhaiteraient connaître mieux votre travail. Un grand merci.
Merci à tous, au revoir.